Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, passage à niveau, votre compagnie jusqu'à 14h, ce dimanche 8 février. Voilà les thèmes qu'on va aborder pendant 2 heures. On va commencer par, je cite, « La réalité délicate, la politique de démantèlement de l'entreprise SNCF, c'est 7 suicides en 8 semaines, une crise sociale est en train de se développer au fil du temps avec son lot de drames humains. » On va avoir avec nous Yann Piroli, responsable de la Commission technique nationale matérielle de la Fédération CGT Cheminot et qui siège à la Commission sécurité du groupe public SNCF. On aura aussi un contact avec le président de la Fédération CNL du Val-de-Marne, Alain Golon, ça au sujet de la réduction encore des subventions de la part du département au bailleur social public du département. Je parle de Val-Office. Et après, la CCPF, Coordination des collectivités portugaises de France, organise un séjour linguistique au Portugal pour les enfants de 7 à 12 ans des 24 au 30 avril. Cinéma, 4e édition du festival Regard Satellite du 13 au 22 février au cinéma L'écran de Saint-Denis, 93 départements. Et on va évoquer aussi le metteur en scène portugais, le réalisateur de cinéma, pardon, Jean Canijo, qui est décédé le 29 janvier dernier. Un livre, La classe et la fonction de Mariana Hans, édition Jean-Daniel Lima, justement, ça a à voir avec les concierges et la domination qui se passe dans les grands quartiers, ou dans les beaux quartiers parisiens. Et pour finir en musique, ce stage chant et percussion à Douf, du Portugal, entre le 15 et également le 15 février du 7 juin, à la librairie de Fulbus, à Fontenay-sous-Bois. Mais avant tout, monsieur Yann Piroli, bonjour.
Bonjour.
Alors, je me suis permis de citer justement un extrait d'un texte que vous avez publié sur les réseaux sociaux. Alors, déjà, on va commencer par le drame 7 suicides en quelques mois, dont 3 depuis le lundi 19 janvier. Il s'agit d'un communiqué justement d'affaires des sciences CGT des cheminots daté du 23 janvier. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a mérité même qu'une télévision d'info continue parle de ce qui se passe. Alors concrètement, Monsieur Piroli, comment on peut expliquer ce drame qui est en train de se dérouler à la SNCF?
Alors écoutez, déjà, pour commencer, je voudrais avoir une pensée émue pour les familles et pour les cheminots qui sont morts, parce que c'est un moment difficile. Une pensée aussi pour les collègues, parce que il y a aussi beaucoup d'amertume dans ce qui se passe. Et effectivement, mon poste, il veut dire quoi ? Il veut dire que les choix stratégiques et les orientations et les priorités fixées au sommet comme au local dans les établissements ont un impact direct et palpable sur le vécu des cheminots et qui emmène effectivement parfois à des drames. C'est quelque chose de lourd. Il impose une exigence morale. Et regardez la réalité en face. Et je pense que la direction de la SNCF ne le fait pas à l'heure actuelle. Et puis, effectivement, au nombre de suicides en ce moment, on fait le parallèle, hélas, avec les drames des salariés de France Télécom au tournant des années 2010. Évidemment, la brutalité politique de l'entreprise, les restructurations, l'effacement des repères collectifs, l'indifférence systémique, et ça avait conduit à une vague de suicides. Et pour le coup, c'est pas moi qui ai fait la première liaison avec France Télécom, mais deux cadres dirigeants de l'entreprise qui, quand on se parlait en off, nous ont cité France Télécom. Mmh. Ce qu'il faut savoir, c'est que la SNCF, pour que vos auditeurs comprennent bien, la SNCF, maintenant, elle a 7 sociétés anonymes. Dans les 7 sociétés anonymes, on a la holding SNCF, la SNCF Voyageurs, Réseau, Gare et Connexion, Rail Logistique, Keolis, Geolis. La plupart des suicides se passent à Réseau, dans la SA Réseau. Mmh. C'est pour ça qu'on fait un parallèle justement, c'est parce que à la SA Réseau, ils sont peut-être le plus en avance sur la future politique de l'entreprise qui est en train d'être menée.
Monsieur Piroli, qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Ça veut dire que oui.
Oui, mais concrètement, pour les travailleurs, pour les cheminots, ça représente quoi dans la vie de tous les jours?
Alors, dans la vie de tous les jours, je vais prendre Réseau. Réseau, vous vous occupez plus particulièrement de la gestion des rails, de tout ce qui roule. Vous avez des périmètres d'intervention. Les périmètres d'intervention, avant, ils poussaient jusqu'à 100 km. Vous pouviez intervenir sur un rayon de 100 km. Maintenant, les mêmes équipes, où on a fait des économies et on a réduit le personnel, se retrouvent avec un rayon pouvant aller jusqu'à 800 km, avec des astreintes qui sont en train de sortir. Donc l'agent, il fait son temps de travail, et puis après, on le fait sortir en astreinte, bah, pour continuer à faire ce que les autres faisaient avant, mais comme ils sont plus là, bah, il a fallu trouver une solution, donc on le paye en astreinte, et il va de plus en plus loin.
Oui, parce
On
que
demande...
oui, pardon, parce qu'effectivement, depuis 2018, c'est des dizaines, des milliers de cheminots qui ont été licenciés, déplacés ou forcés à changer de métier, c'est ça?
Exactement, pour la réduction des coûts. Et effectivement, maintenant, la SNCF ne réagit pas, ne se restructure pas ou ne donne pas les moyens par rapport à ce qu'il faut avoir pour bien travailler, mais par rapport à une ligne budgétaire. Alors, au début, on se dit, il y a des abus, il va falloir qu'on les contrôle. Enfin, sauf qu'à un moment donné, s'il y avait des gens à certains endroits, c'était pour des raisons. Maintenant, les cadres de l'entreprise et beaucoup les cadres. Hein, moi, j'ai en juin 2025, il y a un cadre pendant une réunion Teams qui s'est tiré une balle dans la tête. Ça n'a pas fait réagir grand monde puisque Réseau a décidé de passer ça sous silence. Ensuite, on a eu un autre quelques semaines après, un cadre de 40 ans qui est revenu pendant la nuit. Alors qu'il était en arrêt pour dépression, il est revenu pendant la nuit à son bureau et il s'est jeté par la fenêtre. Il avait 40 ans et il avait 4 enfants. Et en fait, à chaque fois qu'on fait un lien, faut faire très attention parce que la direction de l'entreprise nous le dit, c'est jamais la faute de l'entreprise, c'est toujours la faute de ce que le cheminot vit chez lui. Non, c'est un peu des deux. Sauf que permettez-moi que quand à un moment donné, un cheminot, il est rentré, il travaillait, il faisait 35 heures par semaine et puis travaillait 2 week-ends et une semaine de nuit, bah, sa femme, elle était au courant. Là maintenant, au fur et à mesure du temps, bah, il va faire 2 semaines de nuit et il va être en astreinte 2 fois plus longtemps ou 3 fois plus longtemps. Et des fois, il ne rentre pas chez lui pendant plusieurs jours. Alors que ce n'était pas son contrat de travail prévu au début. Pourquoi? Parce qu'on a voulu faire des économies et effectivement, on a réduit le nombre de cheminots et on a augmenté leur périmètre géographique de là où ils interviennent.
Bon, je ne souhaite pas rappeler ce qui s'est passé de la tragédie à Juvisy, sur Orge, mais enfin, bon, on a vu exactement manque de personnel. Alors, plus encore, apparemment, la direction n'accompagne pas comme il faut les familles et les collègues des cheminots qui ont perdu la vie.
Non. Elle refuse déjà de passer les suicides avérés par rapport à l'entreprise en accident de travail, ce qui se faisait avant automatiquement. Effectivement, mais là on parle de l'accompagnement d'agents qui sont déjà décédés et ça rajoute de l'horreur à l'horreur. On peut aussi détourner les jeux, mais en fait. L'entreprise est d'une logique mortifère et transforme tout ce qu'elle touche, et même quand elle en est responsable. Le drame humain se rajoute au drame humain. Nous, à la CGT, ce qu'on veut, c'est qu'on traite les sujets. La direction, elle préfère détourner les yeux, s'abriter dans des process, des statistiques, des audits qui disent tout et rien. Au lieu d'affronter le regard des familles endeuillées, des collègues qui sont brisés, qu'ils viennent dans les ateliers, qu'ils regardent, qu'ils touchent du doigt la réalité. Il faudra de toute façon, à un moment donné, qu'ils rendent des comptes. De toute façon.
Monsieur Perroli, vous demandez aussi que, bon, il faut arrêter les réorganisations, déjà de, bon, qu'il y ait un moratoire. Parce que finalement, en fin de compte, si je comprends bien ce qui est en train de se passer, c'est qu'on se chemine tranquillement, mais doucement, mais tranquillement, c'est le cas de le dire, on est en marche vers la privatisation de cette entreprise publique au port.
Oui, on est en marche. À l'inverse de ce qui avait été fait en Angleterre, où ils avaient justement privatisé les services publics, ils en étaient à, il me semble, hein, de mémoire, 2 accidents ferroviaires par mois. Alors, plus ou moins graves, hein, mais c'était ce rythme. Écoutez, je vais pas vous mentir, il y a une semaine, il y a deux cadres supérieurs de l'entreprise qui ont des grandes fonctions dans l'entreprise qui m'ont dit qu'on y allait obligatoirement, que c'était maintenant une réalité. C'est-à-dire qu'il y a des cadres qui sont dans la boîte depuis plus de 30 ans, qui ont une expérience, qui sont des gens de terrain et qui sont en train de nous dire, on nous fait porter des choses où on sait qu'il va y avoir des drames après. Parce que justement, on est dans une logique d'entreprise qui est dictée par Bruxelles et qui fait qu'il faut qu'on aille de plus en plus vers la privatisation.
Monsieur Payorli, je m'excuse. Que je sache, c'est pas l'Union européenne, Bruxelles, qui impose la privatisation ni quoi que ce soit. Ça concerne par exemple l'EDF, etc. Il y a un certain nombre de choses que c'est les gouvernements français successifs qui disent c'est Bruxelles, mais c'est pas tout à fait comme ça, Monsieur Payorli.
Alors, je vais pas aller dans votre sens. Vous savez, on a des réseaux européens de syndicats, d'organisations syndicales. On s'aperçoit en discutant entre nous que la même politique partout en Europe est faite de la même façon au niveau du ferroviaire, à part la Suisse. Voilà.
Qui fait pas partie de l'Union européenne, la Suisse.
Voilà. Excusez-moi, le périmètre géographique. Et effectivement, tous les autres, on a cette même démarche avec les mêmes temps de passage et avec les mêmes drames, avec des gens comme les Allemands. D'ailleurs, les Allemands, depuis qu'ils ont commencé à privatiser parce qu'ils sont un petit peu en avance, enfin, on s'aperçoit que c'est plus de 51% des trains qui sont en retard. Alors, la Deutsche Qualität, je ne sais pas où elle est passée, mais enfin, ça, c'est la suite des choses qui sont mises progressivement. Alors effectivement, on peut se dire, et Farandou avait été le premier à le dire, que c'était lui qui avait décidé qu'on devait passer en filiale, que c'était justement une décision de sa part et pas de l'Europe. Ça, c'est vrai. Mais par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est que partout en Europe, on a la même impulsion de tous les gouvernements. Alors, chacun aura sa grille de lecture pour voir ça, mais c'est ce qui est en train de se passer.
Alors, Monsieur Yann Payorli, quand on regarde ce qui se passe au niveau des cheminots, le travail, la pression, etc., d'où les suicides et plein d'autres choses qui se passent, mais on n'est pas forcément au courant, c'est le cas de le dire, parce que, déjà, il y a vos conditions de travail, mais après, il ne faut pas oublier que le ferroviaire, en principe, c'est un service public. Alors, je pose toujours la question, qu'est-ce que je suis, moi, personnellement, qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Je suis un client en usager. Où est-ce qu'on va y aller? C'est-à-dire, vous, les cheminots, c'est ça, la situation devient difficile dans le travail quotidien. Et pour nous, les usagers, d'ailleurs, par les SNCF, apparemment, il y a plus de trains, il y a plus de retard. Les trains sont supprimés et souvent, par manque de machinistes. Des fois, on dit, on rêve.
Oui, on rêve. Alors, il y a des choses que, comprenez-moi, que je ne vais pas pouvoir vous dire. Vous êtes un usager.
Oui.
Vous n'êtes plus un usager, vous êtes un client. D'ailleurs, l'entreprise le martèle. Hein. L'entreprise, quand elle parle, elle dit les clients. Et quand nous, organisation syndicale, on dit les usagers, elle nous reprend à chaque fois. D'ailleurs, en disant que, par exemple, quand quelqu'un prend le TGV, ce n'est plus un service public, puisqu'il y va, en fait, pour faire des vacances. Quand on sait le nombre de gens qui prennent le train, qui continuent à travailler dans le train ou qui se déplacent pour leur travail, enfin, c'est juste incroyable. Oui, des clients qui seront de plus en plus mis en danger, je pense, par les entreprises ferroviaires. Je vais essayer d'être prudent dans ce que je dis. On a de moins en moins de formations à la SNCF. On emploie des gens qui sont de moins en moins bien formés. Pour vous donner un exemple, les gens qui s'occupaient de la sécurité ou de la prévention de la sécurité dans les SA, on a coupé de moitié voire de trois quarts leur pôle. Travailler en pôle, on l'a rappelé, à réseau, par exemple, pour 50 000 cheminots, je pense qu'ils ne sont plus que 11 à s'occuper de la prévention et de la sécurité. La SA Voyageurs, on leur en a pas promis 11, on leur en a promis 4. 4 au niveau national. Alors qu'à 11, ça ne fonctionne pas. On arrive avec des gens qui sont des sachants, c'est-à-dire qui n'ont jamais jamais travaillé dans le ferroviaire, mais par contre, a priori, qui ont des très bons cerveaux. Et comme ils ont des très bons cerveaux, ben, ils pensent mieux que ceux qui connaissent le métier. Et ça, c'est dramatique. Qui plus est, depuis l'arrivée du nouveau président, ancien Premier ministre, Jean Castex, d'ailleurs, quand il a pris des décisions pour la SNCF, et quand il va sur le terrain, il dit « Ah ben, je savais pas que ça se passait comme ça. Ah ben, j'étais pas au courant. » Et puis, il s'en va. Et puis, quand on l'intercepte, on dit « Voilà, on a des problèmes locaux. » Il dit « Je suis pas là pour parler des problèmes locaux. Moi, vous avez des représentants nationaux pour parler de vos problèmes. Parlez-en à vos représentants nationaux. » Et quand on l'a en face de nous, il nous dit « Ah ben, moi, je peux rien faire. » Voilà. Donc, effectivement, je pense qu'à un moment donné, avec la pression qui est mise sur les cadres de l'entreprise, la pression qui est mise sur les agents, le manque de moyens humains et le manque de moyens pécuniers pour arriver à faire un service public de qualité où on mettra les agents et les usagers dans des trains qui sont conformes et qui puissent rouler en toute sécurité. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Réseau, qui est touché par une vague de suicides, c'est l'endroit en 2025 où on a eu le plus d'accidents mortels au travail, que ce soit des entreprises privées ou que ce soit la SNCF, par manque de moyens pratiquement à chaque fois. Mmh. On a des gens qui pensent le ferroviaire, mais qui n'en ont jamais fait. Et c'est eux qui vont prendre le pouvoir de cette entreprise, hein, et puis qui vont nous emmener, je pense, petit à petit vers certaines choses vers lesquelles on ne devrait pas aller.
Monsieur Yann Perroli, je vous remercie. Je rappelle, vous êtes responsable de la Commission technique nationale matérielle de la Fédération CGT Cheminots et vous siégez à la Commission sécurité du groupe public SNCF. Alors, aujourd'hui, j'ai su que finalement, le groupe public, il y a plein de choses là-dedans et apparemment, bon, chacune fait un petit peu ce qu'elle a envie de faire. Le tout, c'est de faire du profit, du bénéfice, comme on dit. Monsieur Yann Perroli, merci et bien entendu, on va accompagner tout ce qui est en train de se passer.
Eh ben, je vous remercie.
Merci, à bientôt. Bon, et maintenant, on va parler du logement, concrètement, dans le 94. Alors, et une année de plus, le département du 94 a réduit les subventions accordées aux bailleurs sociaux publics du 94. Je vais parler de Val'Office. Justement, écoutons ce qu'il nous a dit le président de la Confédération nationale du logement du Val-de-Marne, Alain Gaulon, à ce sujet.
Bah, en tout cas, il a été décidé au conseil départemental du Val-de-Marne de réduire de nouveau la subvention pour Val'Office pour l'année 2026. C'est pas la première fois, c'est déjà plusieurs fois de suite qu'il le fait. Et ça avait été fait l'année dernière, il y a deux ans. Et ça réduit considérablement la subvention totale sur la convention 2020-2026 qui était dévolue à Val'Office, puisque si on comptabilise la totalité des baisses, on arrive à 10 millions d'euros en moins sur 5 ans, donc ce qui est quand même assez gravissime, puisque avec 10 millions d'euros, on peut faire pas mal de réparations, de réhabilitations ou d'entretiens courants dans les résidences de Val'Office.
Oui, mais apparemment, ce n'est pas la première année, c'est-à-dire parce qu'il y avait un contrat pluriannuel d'objectif 2021-2026. Alors, si on cumule les subventions départementales, bon, c'est 10 millions d'euros en moins.
C'est exactement ça, c'est 10 millions en moins sur la dernière convention, ce qui est quand même assez gravissime. Et quand on sait que la politique actuelle du département est de sabrer dans les dépenses publiques et dans tous les services publics, je pense notamment aux crèches, mais pas seulement, hein, il y a eu la carte améthyste, il y a la carte imaginaire, les différents services qui étaient proposés qui sont sabrés. Nous, on lance l'alerte en fait à la CNL de se dire que puisqu'on sabre dans les dépenses publiques sur le département, il n'est pas impossible que Val'Office fasse les frais de ça et qu'à un moment donné, on se débarrasse aussi de ces services publics du logement.
Alors, tout en sachant que sur le département, il y a 120 000 familles qui attendent un logement dans le 94.
Exactement. Non seulement il y a 120 000 familles qui attendent, c'est pas mal de gens qui sont en précarité sociale. C'est plein de gens qui attendent parfois depuis 10 ou 15 ans un logement et à qui on n'a jamais rien de proposé. Et donc réduire considérablement les services publics du logement serait une catastrophe au regard de la demande qui est extrêmement forte.
Vous dites dans un communiqué, hein, la Fédération CNL du Val-de-Marne, tout simplement, c'est que, je cite, « fragilisant financièrement Val-Office, le département affaibli délibérément un outil public majeur et l'œuvre la voie à des logiques de privatisation, externalisation et de la mise en concurrence du logement social. » C'est des accusations assez bien précises, monsieur Langlois.
Alors, des accusations, je ne sais pas si on est dans l'accusation, on est en tout cas sur la crainte. Et on préfère, comme un peu des lanceurs d'alerte, on préfère alerter dès maintenant le risque de privatisation de l'ensemble du parc public de Val-Office, puisque soit c'est racheté, et ça pourrait être racheté, et pourquoi pas, et en tout cas c'est la crainte que nous avons, nous, à la CNL, que Val-Office soit dépecé au bénéfice du privé, ou alors de grands groupes comme CDC Habitat ou I3F, dont on sait que le quotidien et l'entretien du quotidien est loin d'être optimum au regard du service public. Mais au-delà de ça, c'est que notre crainte à nous, c'est de voir disparaître un service public du logement au bénéfice de capitalisation et au service d'une financiarisation qui ne va pas au service des locataires et du quotidien des locataires. Donc c'est la crainte, et c'est pour ça que nous lançons cette alerte auprès du public, auprès des élus, auprès des pouvoirs publics, afin de dire, attention, nous, il faut qu'on sauvegarde un service public. Il est hors de question que le logement devienne privatisé et devienne une marchandisation.
Je fais un petit peu, bon, depuis 4-5 ans, depuis que, bon, il y a le nouveau exécutif au conseil départemental du Val-de-Marne. Bon, déjà, il y a un certain nombre de subventions qui ont été, ont disparu carrément. C'est-à-dire, on n'aide plus les villes qui ont plus de 25% de logements sociaux. Bon, c'est ça qui dit la loi SRU. Donc, pour vous, il y a une continuité dans le, bon, je vais utiliser un terme un petit peu excessif, de sabrer finalement le parce que c'est un bien public, le logement.
Exactement. Pour nous, il y a une volonté politique de sabrer dans tout ce qui est les services publics, et le logement en fait partie, et depuis quelques années, c'est le cas sur le département. On comprend et on est bien conscient des problèmes financiers que rencontre le département, et notamment la non-restitution de dotations de l'État, mais à un moment donné, il y a des choix politiques qui sont faits, et ces choix politiques se font au détriment des habitants et se font au détriment des locataires.
Il y a un communiqué qui est daté du 6 février, je cite, hein, « Sans en défausser une récompense, entre guillemets, scandaleuse pour une ville hors la loi du logement social. » Peux-tu nous expliquer pourquoi est-ce que la CNL a fait un communiqué pareil ?
Il se trouve que le ministre du Logement, Monsieur Vincent Jeanbrun, hein, qui est du Val-de-Marne, est venu jeudi dernier récompenser, et on le met bien entre guillemets, mais il est venu récompenser le maire de Saint-Maur en disant qu'il avait fait d'énormes efforts pour construire du logement social sur sa ville, qui est quand même la ville la plus moins lotie dans ce domaine-là, puisqu'il est à peine à 11%, alors que, comme vous l'avez dit très justement, il devrait atteindre les 25%, et que c'était une ville qui était sanctionnée par le préfet départemental, qui avait récupéré la mainmise sur sur le logement sur cette ville. Et donc le ministre vient entre amis, hein, c'est un petit arrangement entre amis, dans un autre sens en tout cas, dire bah vous êtes un bon élève, et donc on va vous retirer les sanctions qui pesaient sur votre ville, et on diminue de moitié l'amende que vous payez. Sauf que dans la réalité, vous avez 61% des habitants de cette ville qui cherchent toujours un logement et qui sont obligés d'aller vivre dans d'autres villes qui, elles, respectent et qui sont des maires bâtisseurs et qui respectent la loi SRU. Saint-Maur ne respecte pas la loi SRU et n'a pas l'intention de respecter la loi SRU, puisque sur le foncier qu'il est libre, il ne construit pas du logement social, il le laisse aux promoteurs privés et à faire des logements de grand standing. Et il suffit de se promener dans Saint-Maur pour le voir de visu. Donc clairement, pour nous, c'est scandaleux. Pour nous, c'est une atteinte à la loi SRU, et c'est surtout une prime à la désobéissance. Donc dire à un maire, je te félicite parce que tu aurais fait des efforts de logements sociaux, c'est faux. C'est une prime à la désobéissance. Et nous, nous répétons que Saint-Maur, mais comme d'autres villes du Val-de-Marne, il y a des villes qui sont hors la loi SRU de l'article 55.
Mais Monsieur Gollon, apparemment, bon, je cite encore votre commentaire, hein, si Saint-Maur des Fossés paye aujourd'hui 6,5 millions d'euros, c'est parce qu'elle refuse depuis des années de construire des logements sociaux. Alors ça veut dire que c'est cette amende qui a été divisée par deux ?
Dans l'amende, il y a deux types. Il y a l'amende SRU qui est de 1,5 million, à peu près, 1,5 million d'euros. Et après, il y a eu le complément de l'amende parce que c'était une ville carencée et désignée comme ville carencée, c'est-à-dire qu'il ne respectait pas la loi. Et donc l'amende avait été... il y avait une suramende d'à peu près un peu plus de 4 millions. Donc ce qui va être divisé, c'est cette partie-là qui va être divisée de manière par deux, d'ailleurs, par le ministre.
Monsieur Gollon, bon, je ne vais pas être un oiseau de mauvaise augure, mais enfin, il y a encore un autre communiqué. Bon, donc, c'est pour dire la situation du logement, surtout ceux qui, malgré un salaire, n'arrivent pas à se loger, n'arrivent pas à trouver un toit. Ça, il s'agit de la société philanthropique qui veut expulser ses locataires précaires. Bon, ça mérite une explication.
En fait, là, on est dans un cas assez particulier où vous avez une société qui gère un ensemble d'immeubles et qui a bénéficié de subventions publiques de l'ANAH, qui est l'Agence nationale pour la rénovation dans le parc privé, qui a donc bénéficié de subventions publiques pour pouvoir faire de la rénovation. Mais elle ne respecte pas la contrepartie de la convention qu'elle a signée avec l'ANAH, c'est-à-dire de proposer des loyers à un taux minimum, qui exige la convention qu'elle a signée avec l'ANAH. Et de fait, en sachant que c'est des populations déjà précarisées, elle précarise encore plus ces populations-là, au risque de les expulser, et d'autant plus de les expulser qu'elle propose déjà des augmentations de loyers que les locataires ont décidé de ne pas accepter, puisque rien n'est respecté. Donc, bien entendu que là, il y a un risque fort d'expulsion, et nous sommes sur le dossier et bien entendu que nous voulions alerter publiquement sur cette affaire et sur ce dossier, parce que nous considérons qu'une société qui s'appelle Société Philanthropique, de par son nom, devrait être sociale, devrait être solidaire de ses locataires, et ce n'est pas le cas, et donc c'est pour ça que nous avons fait ce communiqué de presse.
Quelque chose de positif, c'était l'annonce du Premier ministre. Il avance le projet de construire 450 000 logements, ça à court terme. Bon, il y a quand même du positif, tout au moins le gouvernement, bon, il donne une réponse. Bon, pour le moment, elle est écrite, hein, elle n'est pas encore sur le terrain.
On est d'accord, pour l'instant c'est qu'une annonce, une annonce ambitieuse, quand on sait que actuellement on en construit à peine la moitié, ou en tout cas un peu plus de la moitié de ce qui est promis, on peut se poser des questions sur cette annonce qui va devoir avoir des financements. Quand on voit le projet de loi de finances qui vient d'être voté et les réductions qu'il y a sur toute la partie logement, on peut se poser la question des financements qui vont être alloués à ce grand projet ambitieux de construire 400 000 logements par an. Donc, effectivement, sur le papier, on peut être content. Dans la réalité, on risque d'être très, très vite déçu à la fin de l'année en s'apercevant que ça ne sera pas réalisé.
Bon, à ce moment-là, on verra et on pourra en juger, effectivement.
Il n'y a pas de problème.
Voilà. Merci, monsieur Alain Gollon. Je rappelle, responsable de la Fédération CNL du 94. Une toute petite dernière question. C'est fini? Vous avez plus de subventions de la part du département?
Ah, nous, ça fait longtemps maintenant, ça fait quelques années. Depuis 2021, pratiquement, nous n'avons aucune subvention du département. Donc, nous sommes complètement indépendants financièrement des pouvoirs publics, ce qui nous permet peut-être d'avoir un peu plus de liberté de parole. Mais il va de soi que nous n'avons plus la subvention du département. Mais comme beaucoup d'autres associations, comme les Restos du Cœur, comme le Secours Populaire ou le Secours Catholique, ou les syndicats qui ont vu drastiquement leur subvention baisser. Donc ça participe de la réduction des dépenses publiques, on va dire, mais malheureusement ça touche toute la solidarité et toutes les associations qui œuvrent pour que le quotidien soit au mieux dans les cités et dans les quartiers.
Par la voix de Alain Gollon, président de la Fédération CNL du Val-de-Marne. Ora, hoje é dia 8, pois bem, é dia 8 de fevereiro, é o segundo dia onde as comunidades portuguesas podem votar para as eleições presidenciais, nem mais nem menos, e até às 19 horas. Assembleias de voto em França, Paris, Tours, Orléans, igualmente Estrasburgo, em Lyon, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Ajaccio, Nice e Montpellier. É aqui que há assembleias de voto e há dois candidatos em lista nesta segunda volta, António José Seguro e André Ventura. Quanto aos resultados, provavelmente vamos tê-los lá no final deste dia. Há que referir que em Portugal, e por causa das tempestades, precisamente um certo número de votos bilhetes foram adiados para outra data, isto com a situação difícil da população, fala-se mais já de 13 mortos em Portugal. Bom, on va revenir à notre cher français et on va parler de la CCPF qui organise un séjour linguistique au Portugal, un de plus, pour les enfants de 7 à 12 ans, du 24 au 30 avril. Marie-Hélène Evrard, bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'être avec nous par téléphone. Alors, vous êtes présidente de la CCPF, donc c'est quelque chose de ce séjour linguistique. Bon, c'est devenu déjà une tradition, une obligation pour d'autres, mais enfin, dans le bon sens du terme, hein, entendons-nous bien. Alors, ça, c'est important parce que quels sont les objectifs exactement de ce séjour?
Alors, l'objectif, c'est de permettre déjà une immersion linguistique, c'est-à-dire que les enfants sont baignés complètement dans un monde linguistique, aussi bien au niveau du quotidien, des repas, des jeux, et puis aussi des visites. Donc, c'est un bain linguistique. C'est aussi une super expérience d'autonomie, parce que des enfants qui sont jamais partis de chez eux ou qui ont envie de développer la langue, c'est une super opportunité, et c'est vraiment un moment convivial et de découverte aussi. On aura par exemple la visite des crottes, on va aller à Coimbra visiter le Portugal des petits, et on est aussi très sensible à tout ce qui est développement durable, donc on les emmènera visiter l'Océanorium. Donc un certain nombre d'objectifs qui vont se concrétiser et qui sont vraiment un temps, je dirais, privilégié pour les apprenants en portugais.
Alors, cette année, ils vont être au Centre d'éducation d'environnement Quinta da Escola, à Alvados. Ça se trouve dans le parc naturel de Serras da Aire et Candeias. C'est à propos dans quelle région du Portugal, pour ceux qui ne connaissent pas?
C'est extraordinaire, c'est un lieu naturel. Et donc, les enfants évoluent dans ce parc naturel, et où ils auront aussi un certain nombre d'activités du type acrobranche, tyrolienne, balade en âne, escalade, et plein de jeux collectifs. Donc, on est en pleine nature, et c'est génial.
Alors, ça se passe au centre du Portugal. Est-ce que vous avez des nouvelles? Il y a un peu eu des dégâts à cause de la tempête?
Effectivement, c'est proche des lieux de tempête. Et donc, en tant que responsable du séjour, je me suis bien sûr préoccupé de la situation. Et donc, les responsables à Quinta nous ont dit qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de dégâts du type des arbres qui sont tombés, etc. Mais tout est dans l'ordre actuellement, et on caresse l'espoir que ça soit le soleil au mois d'avril.
Alors, les inscriptions, c'est jusqu'au 20 février, c'est la date limite, hein,
voilà,
je crois bien.
Voilà.
Alors, ça coûte 720 €, c'est tout compris.
Tout compris, c'est-à-dire le billet d'avion, et je disais que les billets d'avion nous coûtent très très cher, c'est ça le problème, parce que c'est une période de vacances, et l'animation, les sorties, l'hébergement, tout est compris dedans.
Alors, le paiement, apparemment, on peut le faire en plusieurs fois,
voilà.
Donc trois chèques.
Notre préoccupation, c'est que tous les enfants puissent accéder à ce privilège de séjour linguistique, et donc on facilite le paiement de façon à ce que... Moi, je sais qu'il y a, par exemple, des enfants de Corbeil qui étaient intéressés. On sait que c'est compliqué pour certains parents. Donc, on a souhaité vraiment faire en sorte que ça soit accessible à tous.
Oui, mais plus encore, parce que il faut dire que, bon, on peut solliciter une aide à la Caisse d'allocation familiale ou encore au comité d'entreprise, là où on travaille.
Exactement, oui. Tu fais bien de le préciser, ce sont deux dimensions qui peuvent aider, enfin deux aspects. Et de ce fait, nous, comme on a un agrément de séjour pour ce séjour linguistique par Jeunesse Sport, ça permet de valider. Par exemple, un comité d'entreprise peut donner qu'à condition que nous fournissions une facture, et cette facture, on peut l'attribuer, on peut la donner que si on a l'agrément. Et donc là, on est complètement en conformité avec la loi. Et puis, il y a aussi des caisses d'allocation familiale qui peuvent donner pour aider pour des parents qui sont plus en galère, si je puis dire.
Oui, non, mais aujourd'hui, on sait très bien, même des couples, un couple avec des enfants, ils travaillent tous les deux, et ça n'empêche que, bon, on appelle ça des travailleurs pauvres. Bon, c'est pas le sujet maintenant. Alors, pour s'inscrire, je pense que, bon, déjà, il y a un dossier à remplir. Comment est-ce qu'on peut avoir accès à ces documents-là?
Il suffit de m'appeler, je vous envoie, moi,
de vous appeler directement?
Voilà, m'appelle directement, je renvoie le dossier, ou alors il y a des professeurs qui ont accepté de diffuser le dossier, je pense à Johanna,
à Amélia, Caroline,
à Amélia, voilà. Et un certain nombre de profs, et donc Fatima, et donc ils ont diffusé le dossier, mais s'ils ont besoin, ils n'hésitent pas, soit à la CCPF, soit moi personnellement, au 06 86 08 26 20, et j'adresse le dossier aussitôt.
Alors, Marie-Hélène Evrard, je ne peux pas oublier que vous êtes encore élu municipal, mais apparemment, bon, pour les élections du mois de mars, vous avez dit, bon, j'ai fait déjà plusieurs mandats, ça suffit, c'est vrai?
Exactement. Je crois que tu es dans le secret des dieux, là.
Presque. Non, mais je farfouille, je fouille les... Bon, pas les poubelles, hein, s'il te plaît.
Mais plus, alors... la décision est toute fraîche, elle est d'hier, donc voilà. Après, beaucoup d'hésitations, je renonce et je me consacrerai peut-être plus à la promotion de la culture française au Portugal.
Alors, Marie-Hélène Evrard, bon, c'est fini, on ne peut plus s'inscrire sur les listes électorales, mais ça n'empêche que c'est la seule, il y a aussi les élections européennes, où les citoyens européens, ils peuvent voter. Alors, ils sont inscrits sur des listes complémentaires, entre guillemets, bon, mais enfin...
Exact.
Bref, alors, ça
mais
c'est...
c'était jusqu'au 6 février.
Oui.
Le droit d'inscription.
Oui, c'était. Bon, c'est passé. C'est pour ça que je dis que c'est déjà passé. Mais ceux qui sont inscrits, c'est fondamental finalement d'aller voter le 15, après le 22, éventuellement s'il y a un deuxième tour. Parce que la ville, ça concerne notre vie quotidienne finalement.
Complètement. Et vraiment, ça coûte rien de passer du temps à aller voter, vous vous exprimez, et puis après vous avez aussi le droit de dialoguer, d'interpeller les élus, parce qu'en fait vous aurez voté. Et quand on vote pas, je trouve qu'on a quand même des restrictions pour pouvoir contester, si je puis dire.
Alors, Marie-Hélène Evrard, vous êtes présidente de la CCPF, coordination des collectivités portugaises de France, et en principe, la CCPF a un point de vue d'ensemble, c'est que concerne le mouvement associatif portugais en France, bon, j'aurais pas voyé le Covid, ce confinement, etc., donc il y a plein d'associations qui ont carrément arrêté leurs activités, qui sont disparues, mais quel panorama pourrait-on présenter aujourd'hui la situation des associations? À un moment donné, on avançait le chiffre de 700-800 associations portugaises en France.
Oui, c'est difficile à dire des chiffres exacts, mais on sent qu'il y a un certain nombre d'associations qui ont abandonné ou alors qui ont limité leurs activités. Mais en même temps, il y a d'autres qui renaissent avec une dimension davantage culturelle, militante, par exemple, inciter les gens à voter, etc. Et ça donne de l'espoir sur le fait que les associations soient beaucoup plus intégrées dans le quotidien et travaillent à la promotion justement de la langue, de la culture portugaise et aussi la citoyenneté, parce que là on voit encore aujourd'hui combien c'est important que les gens aillent voter des jours comme aujourd'hui. Donc, vraiment, j'incite toutes les associations à se mobiliser aussi sur la dimension citoyenne. Et puis, on a la chance aussi d'être en partenariat avec une fédération d'associations portugaises au Portugal. Et on veut développer cette dimension échange d'artistes. Et ça, c'est quelque chose aussi qui me donne beaucoup d'espoir pour dynamiser nos associations. C'est-à-dire que nos artistes en France pourront échanger avec les associations portugaises du Portugal, et vice-versa, on pourra aussi accueillir des artistes, faire des échanges très, très constructifs. Voilà.
Marie-Hélène Evrard, une dernière question par rapport à ça concerne les associations. Il y a une relève de génération au point de vue de ces associations, là, ou pas?
Excuse-moi, je n'ai pas compris.
Et est-ce qu'il y a eu une relève de génération?
Oui, et de plus en plus de femmes, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, mais on sent qu'il faut accompagner ce renouvellement, parce qu'il y a des gens, quand ils sont en responsabilité, ils ont du mal à laisser, si je puis dire, le pouvoir. Donc là, il y a un travail aussi d'accompagnement à faire pour que partager le pouvoir et que ça tourne, si je puis dire.
Oui, mais ça, c'est pas uniquement au niveau des institutions que se passe, c'est la société elle-même, et pourtant la société, oubliez que s'il n'y avait pas de femmes, mes amis, les hommes, ils seraient même pas là. Bon, c'est aussi simple que ça. Bon, mais enfin, bref. Marie-Hélène Oeuvreur, merci. Donc, je rappelle, inscription jusqu'au 20 février pour...
Oui, même avant, si vous pouvez, parce qu'on doit intégrer, enregistrer tous les noms des enfants qui prendront l'avion, et la date butoir est le 20. Non. Et donc, après, on perd les avantages des prix, si je peux dire.
Plus ou moins abordables. Plus ou moins abordables. Oui, et sans oublier que, bon, après, les parents, il faut qu'ils trouvent des autorisations de sortie, etc. Bon, mais je pense que tout ça se trouve dans le dossier.
Exactement, donc. On a tout. On a tout.
Marie-Hélène Oeuvreur, merci, je vous remercie.
Merci bien. Arthur et
à très bientôt.
Bon dimanche et à très bientôt.
À très bientôt. E já agora, bom, já que falamos de crianças, bom, as inscrições continuam a nível das secções internacionais portuguesas, para já no Colégio Liceu Internacional no Rio de Bazaque, em Paris 17, aliás, ontem, houve uma jornada portas abertas, precisamente as inscrições até o dia 10 de março, e diz respeito ao Colégio 6º e 3º e ao Liceu 2º e Terminal. No Liceu Alexandre Dumas, em São Clube, inscrições igualmente até o dia 6 de março, no Colégio Emile Verhaerden, São Clube, igualmente inscrições até a mesma data, 6 de março, e por aí fora, de maneira que, pois, não diga que não há sítios onde se pode aprender a língua portuguesa aqui em França. Essas secções são gratuitas, fazem parte do ensino público francês, não há carta escolar aí, não há problema nenhum, pois é uma questão de deslocação, mas enfim, isso é outra história. E estamos a terminar praticamente a primeira hora da Passagem em Nível, emissão Lembra, com redifusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. E vamos terminar com música. Música, a letra é mais ou menos o retrato da situação atual em Portugal, mas enfim, isso aí seria outra história. É Garota Não que canta, é um pseudónimo, evidentemente, e o tema Não Sei Em Que É Que Fica.
Então voltamos ao mesmo assunto. Somos tão bons para o resto do mundo. Na nossa casa o espeto é de pau, a prata é a fome do lobo mau. Welcome, monsieur, a casa é vossa. O mal dos outros não nos faz moça. Quem não aguenta habitação é fratura exposta. E eu que só vinha para falar de amor, deitar neste pito um poema em flor. Mas na porta ao lado há mais um despejo. Cai uma família, fica o azulejo. Começam as obras, que casa bonita. Começam, esquece-se, fome é infinita. Mais um a ela, orgulho nacional. Corrida sem lei, onde vai? Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. Não sei o que é que fica se corrermos mais. E o que é que fica? Como é que fica? Quem é que fica? Como é que a gente fica quando essa gente rica gentrifica? Quando há uma gente que fica fica com cada metro quadrado da nossa vida e memória. Onde é que a gente fica quando nem se identifica? Com essa calçada refeita, com essa fachada que foi feita para dar uma cara de outrora a um fascismo de agora que só quer saber de receita na sede excêntrica. Quem vem de Paris é na hora, quem estava aqui é para fora. Quem vem de cruzeiro vá embora, quem vem no barco que demora, que vai morrer borda fora. O Estado quer a IMI e o banco quer a penhora. Voulez vous parler, parlez vous français? Do you speak anglais? Entre s'il vous plaît, chate se é calé, chate se vem de calé. Desalojamento local para alojamento local, no mínimo paradoxal. E agora este local é igual a qualquer outra capital. Senhor Presidente, não ando feliz. Quero os seus sonhos e não quem mal diz. Calem-se os fachos que ardam bandeiras. Aqui o assunto não são as fronteiras. Seja bem-vindo quem venha por bem. Problema é ver uma casa para cem. Salários tão baixos, amarga a batuta. Que felicidade interna tão bruta.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
C'est la deuxième heure de passage à niveau, ce dimanche 8 février, émission, je rappelle, avec rediffusion dans la nuit du mardi à mercredi à partir de 0h et également le podcast. Eh bien, on va au cinéma et on va y rester un certain temps. Ça, au sujet de la quatrième édition du festival Regard Satellite, du 13 au 22 février au cinéma L'Écran de Saint-Denis. Département 93, mais pas seulement. Et on a déjà parlé d'ailleurs la semaine dernière avec le metteur en scène portugais Pedro Pinquendez, un des invités du festival. Mais déjà, eh bien, on va demander au responsable de tout ça, justement, qu'est-ce qui va se passer entre le 12, le 13 et le 22 février. Laurent Colonnec, bonjour et merci.
Bonjour, merci de votre invitation.
Alors, Laurent Colonnec, vous êtes directeur artistique du festival. On va revenir un petit peu en arrière. Maintenant, cette année 2026, c'est la quatrième édition. Mais j'aimerais bien qu'on parle de la genèse de ces festivals. Et ça, je pense que c'est important pour comprendre la programmation, pour comprendre tout ce qui va se passer, justement, du 13 au 22 février.
Ben, écoutez, le festival est né, en fait, d'un autre festival qui s'appelait les Journées cinématographiques dionysiennes, qui avait commencé en 2000, et qui déjà, ça posait à l'époque des questions autour de la façon dont le cinéma regarde le monde, s'interroge, sur les tensions politiques, par le biais, bien sûr, des sujets, mais aussi des questions esthétiques, qui peut aussi répondre d'une manière, à des interrogations politiques, philosophiques, sociales. Il y a 4 ans, effectivement, en 2022, on a décidé de rechanger un petit peu la formule et d'embrasser autant l'histoire de ce festival que des questions plus contemporaines et, d'une certaine manière, la notion de regard satellite au pluriel était aussi de parler de la place où le festival se situait, c'est-à-dire sur un territoire de périphérie, souvent que j'appelle un accélérateur de particules. Il faut avoir la chance de vivre dans des banlieues parisiennes pour comprendre qu'on est dans des territoires aussi de construction et d'interrogation multiculturelle et politique forte. Donc, de cette manière, c'était aussi pour que ce festival incarne cette notion de diversité et aussi, puisque la périphérie est souvent un espace mis de côté par rapport à un espace dit dominant, c'était aussi d'interroger du coup d'où viennent d'où ce qui se passe et comment le cinéma dit non dominant interroge aujourd'hui le monde. Voilà, c'était un petit peu la stratégie initiale. Et bien sûr, après, on s'est penché beaucoup sur la question aussi de comment le cinéma se fait aujourd'hui, c'est-à-dire comment il peut se réinventer à travers des récits, mais aussi des façons de faire, par exemple, travailler en collectif, des choses comme cela. Voilà, c'était un peu l'esprit de ce festival. On a aussi eu l'idée de travailler, d'incarner cette notion collective par une programmation où certes je suis directeur délégué artistique, mais l'idée c'est toujours aussi d'être une image collective, c'est-à-dire qu'on travaille sur une idée commune, mais chacun ou chacune apporte, que ce soit d'ailleurs des programmateurs, programmatrices ou aussi des cinéastes, un petit peu leur idée autour de ce thème.
Voilà. Alors le thème de cette année 2026 du festival Regard Satellite.
Alors il y en a un peu deux, on va dire, hein, parce que maintenant le festival s'ancre un petit peu moins sur une thématisation stricte, sur un sujet, mais en réalité la racine de cette édition est venue quand même beaucoup de ce qui se passait aujourd'hui dans le monde et s'interroger sur effectivement la montée des idéologies sécuritaires, la question de la place de l'Europe aujourd'hui dans ce contexte, et plus aussi, donc ça c'était vraiment un des enjeux. Alors bien sûr ça peut paraître... c'est un enjeu transversal, je veux dire que c'est plutôt ça qui nous a guidés dans nos choix artistiques, mais et je tiens à le dire, l'idée aussi que cet axe se transpose à travers des multitudes de regards, comme je le disais avant, et de choix. C'est pas nécessairement par simplement manifester des films autour de la lutte contre l'extrême droite, mais parler justement aussi de comment des cinéastes s'emparent de ces sujets, ces questions, et que ce soit effectivement la montée de l'autoritarisme, la façon dont les médias aujourd'hui sont monopolisés par des entités, des façons qui visent à, disons, créer une forme de monoforme et de, ils ont mangé les esprits, on va dire, excusez-moi cette expression. Et par ailleurs aussi, des interrogations sur, par exemple, la question de la décolonisation par rapport à la place de l'Europe. Et par ailleurs, l'autre thème qui était important pour nous, c'était aussi de rendre visibles des invisibilités, que ce soit aussi, bien sûr, par des figures artistiques, mais aussi par des métiers et des évolutions dans les pratiques, par exemple dans le cadre du documentaire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre derrière les images qui transforment aujourd'hui le cinéma ou l'audiovisuel de manière plus large.
Ce qui concerne la programmation complète, les dates, les heures, quels cinémas, les adresses, etc., le mieux c'est sur les réseaux sociaux, sur le site de Festival Regard Satellite, ils auront tout. Alors, rapidement, hein, on va essayer d'avancer rapidement. Alors, ouverture et clôture, en avant-première, ça vaut peut-être la peine, puisque là, il y a un nom, Annie Ernaux qui est cité, ça c'est très important.
Bien entendu, effectivement, d'ailleurs c'est un petit peu le film Écrit à la vie, Annie Ernaux raconté par les lycéennes et lycéens de Claire Simon, qui n'est pas non plus une personne aussi importante déjà par sa place de cinéaste féministe. Mais effectivement l'idée c'était, ce qu'on trouvait intéressant, parce qu'on est beaucoup dans la question aussi de faire parler les générations entre elles, c'est-à-dire des générations aussi de lutte présente et à venir, et l'idée d'avoir ce film qui est où des lycéens et des lycéennes dialoguent avec les propos d'Annie Ernaux, la littérature, ses récits, on trouvait ça assez passionnant parce que justement c'est une histoire de pont. C'est une chose qui nous paraissait importante. Et effectivement, comment effectivement l'œuvre peut être enseignée aujourd'hui d'Annie Ernaux, comment elle peut être reçue par la jeunesse d'aujourd'hui. On trouvait que c'était un très beau sujet. Et le film de clôture, c'est Un jour avec mon père, My Father's Shadow, d'Nicolas Davis Jr., qui est un récit autobiographique qui se situe pendant la crise électorale au Lagos, donc dans la capitale nigériane. C'est effectivement aussi un récit de transmission, parce que c'est un père avec ses fils dans un contexte où effectivement il doit transmettre à ses enfants ce qu'il se passe et les protéger. Et c'est aussi par une occasion la manière de montrer un cinéma qui se fait souvent rare dans les salles de cinéma de nos jours, celui qui vient enfin du continent, du, enfin qui en généralement du continent africain et bien sûr du Nigeria en particulier dans le cas présent.
Voilà, alors une constante quand même dans tout ça, c'est que c'est la vie des gens qu'on voit sur l'écran. Je passe l'expression. Alors, on va avancer. Bon, il y a cet nombre de rétrospectives, entre autres Pedro Pignot, cinéaste et producteur Masterclass, on l'a interviewé la semaine dernière. Leila Abouzid, cinéaste, en sa présence Masterclass également. Laura Mulvey, théoricienne du concept du mal gaz au mal gazé, en sa présence. C'est quoi ce concept? Rapidement, Laurent.
Alors, le male gaze, c'est un concept qui a été, qui vient de, alors, j'ai plus le titre en tête de son ouvrage, mais qui vient effectivement de son essai, un essai de 1975, où effectivement, elle tentait d'expliquer, le cinéma, l'abandon, le cinéma est fait et construit sur une fétichisation de la femme, une instrumentalisation de la femme, et que c'était souvent majoritairement dominé par une façon masculine et disons-le patriarcale de montrer le corps de l'autre et aussi même globalement d'orienter le récit. C'est un essai qui a fait date en 75 et qui est revenu de manière forte ces dernières années à travers tout simplement le mouvement MeToo par ailleurs qui s'est et disons un certain nombre de questionnements qui a été apporté par une jeune théoricienne aussi qui s'appelle Iris Bray qui a remis cela sur le devant de la scène. Ce qui est intéressant c'est que Laura Mulvey déjà c'est un immense honneur de la recevoir car je n'espérais pas la recevoir. On était parti surtout de l'idée de faire une rétrospective de son travail en tant que cinéaste avec son mari Peter Whelan qui avait justement tenté de mettre en pratique la question de cette fabrication du male gaze à travers des films souvent semi-expérimentaux pour voir comment on pouvait transformer la façon de filmer et de montrer dans le cinéma. Le fait aussi est que c'est une personne qui depuis 1975 a aussi beaucoup travaillé et retravaillé d'ailleurs à partir du male gaze mais plus largement d'interrogations sur la fabrique du cinéma et ce que le cinéma montre. Donc je trouvais aussi pareil dans un peu dans le même esprit peut-être que la présence d'Annie Arnaud, c'est-à-dire aussi de pouvoir créer des ponts et une rencontre entre de plus jeunes publics qui connaissent peut-être un fragment de cette pensée et l'ensemble de l'œuvre de cette cinéaste, aussi bien sa pensée théorique que ses œuvres cinématographiques.
Voilà, alors des hommages très importants à Peter Watkins, cinéaste oui. Visionnaire, André Verja, voix majeure, si je peux utiliser le terme, cinéma polonais, et les premières œuvres vont être projetées, et ainsi que de nouveaux regards de commentaires à raconter le monde ensemble. Alors, oui, alors rapidement, qu'est-ce qu'il va se passer dans ce cycle?
Alors c'est un cycle qui vient aussi, pareil, un petit peu dans le récit, en complément de ce que j'ai pu dire auparavant, c'est un récit... L'idée, c'est plutôt de parler autour du travail, entre autres, d'une théoricienne qui s'appelle Ariane Papillon, de se poser aujourd'hui comment le nouveau cinéma documentaire, celui qui est en train d'émerger, raconte le monde ensemble. C'est-à-dire comment, au final, de parfois ce qui pouvait être une captation des corps dominés, racisés, colonisés, à des fins artistiques et parfois commerciales, comment aujourd'hui on réinterroge la verticalité parfois qui pouvait exister dans le cinéma documentaire, je ne citerai pas de nom, pour aller construire des fabrications collectives où du coup les participants, les auteuristes et les personnes représentées travaillent collectivement à une question de leur représentation. Quelque part d'ailleurs Pedro Pignot n'est pas très éloigné aussi d'ailleurs dans ses recherches de ces questions-là, mais évidemment c'est une proposition qui vient aussi d'une de ma collègue Laura Pertuis qui travaille aussi pour le Clip 50-50, de justement aussi l'ancrer à travers le travail de jeunes cinéastes d'aujourd'hui, essentiellement effectivement autour du cinéma français, mais c'est effectivement la volonté de créer un débat et une discussion sur comment aujourd'hui depuis Jean Rouch jusqu'à aujourd'hui, comment on est en train de transformer et réimaginer la forme du cinéma de non-fiction dite documentaire.
Voilà, il y a ce nombre d'invités, il y a les écrans libres, Festival Chéri, Chéri, Fenêtre sur le Japon. Et pour terminer, rapidement, Laurent, le programme Jeune Public, et ça je pense que c'est très important, surtout dans 93, c'est un département très jeune en plus.
Tout à fait. Bah, c'est pareil, là aussi, c'est un travail, d'ailleurs, avec, par une collègue, je tiens à le citer quand même, parce que c'est, faut que je parle de collectif, qui a travaillé ça en compagnie, avec l'aide amicale de plusieurs autres partenaires, dont le Festival Ciné Junior, qui se déroule d'ailleurs, par ailleurs, en même temps, dans les mêmes dates que nous, sur un autre département de l'Île-de-France. Mmh. Mais c'est pareil, là aussi, on essaie de créer des moments de rencontre, de dialogue, parfois avec les autoristes, les producteurs, les productrices ou même les cinéastes, pour que le public puisse avoir aussi une vision de la fabrique, comment on construit ces images-là. Et on essaye aussi d'avoir un portrait assez contemporain, je dirais aussi, de l'animation. On va montrer en avant-première le film Planète de Momoko Seto et L'Odyssée de Céleste de Kid Koala, qui est un cinéaste canadien, mais qui est aussi connu dans le milieu de la musique. Et qui du coup voilà, c'est vraiment aussi pareil une volonté d'être j'ai plus le mot en tête, mais disons d'avoir de montrer aussi toute la diversité de ce que veut dire le cinéma d'animation, parce qu'il y a aussi du documentaire, de la fiction, et pas uniquement une vision strictement disons film d'animation égale à dessin animé, mais aller un petit peu au-delà de ça.
Voilà, tout à fait. Laurent Kalonek, je vous remercie, donc directeur artistique du festival Regard Satellite du 13 au 22 février au cinéma à l'écran de Saint-Denis 93, mais pas seulement, il y a entre autres salles, bien entendu. Donc là, j'ai dit aux auditeurs, allez sur les réseaux sociaux, Facebook, entre autres, bon, je ne citais personne, j'ai fini par citer quelqu'un. Mais là, vous allez avoir accès au programme entier. Laurent, je vous remercie, et comme j'ai l'habitude de dire, bon vent, édition 2026 du festival.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Merci. Et nous, on va continuer au cinéma. Peut-être que vous êtes rappelé. 2019, en effet. Ça s'appelait comment déjà ? 11 fois Fatima. Un petit bout de la bande-annonce, pourquoi pas.
Olha o carro! Vamos lá! Só está no canto das mulheres,
meninas! Então!
Raparigas, muitas mais!
Um bocadinho chorado, precisamente, do trailer, o banda-anúncio, como já tenho o hábito de dizer, do filme 11 fois Fátima, do realizador português João Canijo, que faleceu no passado dia 29 de janeiro, de maneira que vamos ouvir uma entrevista que realizámos em Paris, no início do mês de junho de 2019, sobre este filme. O filme foi estreado em França no dia 12 de junho desse mesmo ano. Ora, a pergunta que eu tinha feito ao João Canijo é que, finalmente, que o filme é uma ficção ou é um documentário?
É uma ficção disfarçada de documentário, mas é uma ficção. Embora tudo que está no filme não é nada de inventado, é tudo roubado da realidade, mas depois é encenado e é transformado, por isso é que é uma ficção disfarçada de documentário.
Ora, a questão de Fátima nunca foi pacífica, mas neste filme há uma abordagem diferente, porque finalmente Fátima está ali, mas Fátima parece que ser uma espécie de desculpa, entre aspas, porque há 11 mulheres, há 11 vivências diferentes, há um certo número de coisas, mas relativamente a Fátima não é muito sensível, não é, como tema?
Durante as peregrinações reais, não se fala das promessas, nem dos pedidos, nem dos pagamentos, porque é um segredo de cada um. E o esforço da caminhada é tão grande que na maior parte dos grupos também não se fala muito de religião. Há um ritual de rezar o terço, há um ritual de cantar canções religiosas, mas não há propriamente uma atitude de elevação espiritual, nem de aproximação à Nossa Senhora. Há um espírito de tarefa, de cumprir o sacrifício daquele esforço. É mais isso que outra coisa qualquer.
Mas ao mesmo tempo é uma análise das relações humanas e por vezes em condições extremas, porque...
As condições extremas potenciam as relações humanas. Tanto as emoções e as compaixões, uhum. como as raivas e os rancores e as agressividades. E uma peregrinação a Fátima a pé, aquelas que vêm atrás dos montes, é fazer uma maratona todos os dias, sabendo que no dia seguinte se vai repetir a maratona. Uhum. Imagino que é fazer uma maratona todos os dias, feita por pessoas que não têm preparação física. De maneiras que é chegar ao limite da resistência humana todos os dias, sabendo que no dia seguinte se vai repetir o ciclo e chegar ao limite da resistência humana todos os dias. Ora, no limite da resistência humana, os conflitos nascem por qualquer pequeno pretexto.
Sim, precisamente porque há uma tensão permanente, sentimos uma tensão permanente, para já a vida em comum, é nada evidente, contudo implica o trajeto a pé, mas, e ao mesmo tempo, isso é análise de cada personagem, cada um tem as suas motivações, encontramos mesmo alguém que não tem qualquer influência religiosa, que não acredita em nada.
Não me lembro qual é isso.
É professora.
Ah, mas essa é a única que explica porque é que vai. Essa vai para cumprir a promessa da irmã. E a irmã já não pode cumprir a promessa porque morreu.
Mas voltemos a isso, precisamente, essas tensões permanentes.
Isso acontece. Tudo aquilo acontece, tudo aquilo não foram histórias recolhidas, foram histórias presenciadas pelas atrizes nas peregrinações reais que fizeram. Porque antes de fazerem o filme, elas fizeram, cada uma por seu lado, peregrinações reais. E houve quem a fizesse aquela, de Vinhais.
É verdade, finalmente, que uma parte das atrizes foram obrigadas a fazer duas vezes 430 km.
Não. Isso não sei de onde é que isso vem. Para começar, quem fez 430 km foram só duas atrizes. As outras fizeram todas um bocadinho menos. Houve umas que fizeram peregrinações também muito longas, mas 430 quilómetros, só duas é que fizeram. As que fizeram aquela, com aquela caravana e com aquela carrinha, uhum. que foi a grande inspiração para o filme, tanto que lá está. E depois o que se fez foi para juntar as várias histórias, as várias vivências e construir a relação de grupo, fez uma peregrinação falsa. Que não foram 9 dias, foram só falsa, porquê? Porque não foram 9 dias, foram só 5, e não andavam 50 km por dia, só andavam 20. Tirando.
Só.
Para elas já era pouco. E, sendo que viviam, comiam e dormiam exatamente nas condições que se vêem no filme. E eram filmadas durante todo o dia.
João, nós conhecemos os teus filmes, há sempre a problemática social está sempre presente, o teu olhar sobre a realidade. Não é por acaso, bom, o centenário das aparições de Fátima foi o ano passado, como diz o francês, é um clin d'œil. Esse centenário, o que é que motivou finalmente fazer este filme?
Coincidência absoluta, fruto da crise 2011-2012, que atrasou a produção do filme. E atrasou tanto que a estreia acabou, por coincidência, ser no centenário. Só isso, não foi programado.
Foi, então a culpa foi da Troika, então.
A culpa foi da Troika e foi uma boa coincidência, mas não foi programado.
Ora, paralelamente no filme vimos o percurso, parece que, digamos, há todo um negócio que está montado em Portugal para chegar a Fátima. Corresponde uma realidade a isso?
Negócio de milhões. Está, sim, senhor. Isto é um negócio muito montado, independentemente das intenções de quem faz o negócio, que muitas vezes até são as melhores. Mas ir a Fátima a pé não é barato, porque para ir a Fátima a pé nas peregrinações longas é preciso apoio. Não... Há quem o faça sozinho, mas mesmo fazendo sozinho, o percurso é um negócio para quem está nos locais.
Sim, aparentemente, se me recordo bem, à volta de 900 euros que estiveram a pagar, não sei, para...
Não, que na peregrinação real, esta da carrinha, pagavam 300 euros.
300 euros.
Cada uma. 300 euros é muito para portugueses do interior. Isso faz com que, por uma percentagem relativamente importante, não uma percentagem esmagadora, a peregrinação a pé a Fátima são as férias.
E Fátima, propriamente dita, bom, não vou contar o final do filme, evidentemente, mas Fátima tem aquilo, é um mundo à parte, parece ser um mundo à parte aquilo lá.
A chegada à Fátima é a catarse coletiva. é aquela coisa estranha da energia da multidão, que faz com que as emoções e as comoções sejam exponenciadas a limites inacreditáveis. E ao mesmo tempo é a chegada dos grupos, é o alívio total. E não só porque acabou, mas porque cumpriram.
Sério, o filme, bom, tanto essa peregrinação, entre aspas, de Vinhais até Fátima, mas toda a gente tem em memória aquelas situações, pessoas que vêm de joelhos, etc, etc.
Vocês... Isso já não acontece. Acontecia, mas eu já nem me lembro disso. Agora há o circuito ao joelhómetro, mas é no santuário. E fazem o circuito de joelhos já dentro do santuário. Ainda há muito pouca gente, mas ainda há, ainda vi, gente que vai descalça. Agora, de joelhos não, de joelhos já não acontece.
Como é que em Portugal o teu filme foi recebido? As pessoas reagiram, o que é que se passou?
As pessoas reviam-se, porque o filme não faz nenhum juízo de valor. E o filme tenta limitar-se a retratar, a mostrar a realidade. E as pessoas reviam-se naquela realidade. E depois as pessoas transmontanas revêem-se no filme, porque as pessoas transmontanas são parecidas com aquela realidade.
E a propósito da realidade, finalmente, bom, cada mulher é uma realidade um pouco diferente, um pouco muito diferente, é um choque de culturas, entre aspas.
Como qualquer pessoa é diferente uma da outra, se for obrigado a viver 24 horas sobre 24 horas junto com outra pessoa durante 9 dias, forçosamente há choques de culturas. Neste caso, há choques de personalidades e de emoções.
João Canejo, resumidamente, como é que podíamos apresentar este filme? O filme já foi mostrado em antestreia no Museu de Hoste de Paris, estava lá a comunidade. Como é que poderíamos resumir o filme para aqueles que podem ver o filme a partir do dia 12 de janeiro?
Que é um filme sobre um tema que não podia ser mais português. Não só pela forma de viver a religião, mas sobretudo pela forma de viver a peregrinação. Que a peregrinação a Fátima a pé é completamente diferente daquilo que se imagina da peregrinação a Santiago de Compostela. Não tem rigorosamente nada a ver. É uma coisa que eu acho, mas isso sou eu que acho, que é uma coisa muito portuguesa, considerar que o sacrifício sem esforço não tem valor. E a peregrinação da Fátima a pé é um sacrifício todo ele feito em esforço.
Palavras de João Canejo, foi no início do mês de junho de 2019, a propósito do seu filme 11 Fois Fátima, que foi estreado em França no dia 12 de junho desse mesmo ano. João Canejo, que faleceu no passado dia 29 de janeiro. Vamos ouvir outra vez a banda Anúncio.
Acho que havíamos de multiplicar no caminho até Fátima. As razões porque a gente veio até aqui, pedir a Nossa Senhora para nos ajudar a chegar lá a bom porto.
Por falar, essa conversa não é tua, deves de me dar encaminhada para alguém, estou com um tonto artista, desculpa lá.
Diz lá, quem está contra ti agora é? Quem é?
Eu quero que a gente vá todas juntas nesta peregrinação, que isto é um grupo. E vamos mantê-lo até o fim.
Achei que ninguém é santo. Falta pouco, já voltam para as vossas vidinhas, para lá não há mais.
Boa noite, Maria. Boa noite, minha mãe. Boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite, minha mãe.
11 fois, Fátima, de João Canijo, que nos deixou no passado dia 29 de janeiro. Deixamos o cinema, vamos para a literatura, isto a propósito do livro La classe et la fonction, de Mariana Alves, edição Chandaigne e Lima, que acaba de ser publicado na coleção Brûle Frontière. Pois bem, quisemos saber com uma das diretoras desta coleção um pouco mais sobre este livro, porque não se trata exatamente de um testemunho, não é, Milene Contival?
Bonjour. Alors, un témoignage, nous, avec Anna-Marie Torge, on parle pas de témoignage et on insiste là-dessus, que c'est vraiment une collection de littérature. Et en plus, Mariana Alves, donc l'autrice de La classe et la fonction, a vraiment pensé ce texte et ce récit comme un conte cruel. Un conte cruel qui serait sur la condition des concierges. Et d'ailleurs, pour un peu poser l'ambiance, elle commence le texte avec une petite phrase qui dit « Tout est vrai, tout est faux, ceci est une histoire de maison hantée ». Donc voilà, il y a vraiment il y a quelque chose d'un peu plus, disons, travaillé au niveau de l'écriture qu'un témoignage. Ensuite, donc oui, La classe et la fonction, c'est un récit qui est d'abord à hauteur d'enfant, et ensuite qui est rétrospective, puis à hauteur de jeune ado et de jeune adulte, de quelqu'un qui raconte son enfance, qu'elle a vécue dans une loge donc d'un immeuble très riche, dans le 16e arrondissement parisien. Et c'est d'abord sa mère qui prend la loge, elle va s'y installer avec son père ensuite, la famille va s'agrandir, la grande petite, puis la petite sœur. Et donc le récit de Mariana Alves, c'est raconter cet espace étriqué qui détonne avec le faste et le luxe de l'immeuble à laquelle cette loge appartient, et parler de cette porte en verre qui permet les allées-venues des autres, alors les autres avec un A majuscule, qui sont les habitants de l'immeuble. Et ces autres qui viennent pour un oui, pour un non, pour des demandes en tout genre, qui ne respectent pas l'espace de la famille, qui ne respectent pas les horaires, on ne parle pas du droit de travail, et donc qui empêchent toute intimité à la famille de la grande petite. Et elle va montrer de façon, du coup, tout au long du récit, en invoquant plein de souvenirs, donc de façon très subtile, mais n'empêche très percutante aussi, comment ce lien aux autres, avec un grand A, cette confrontation qui est finalement une confrontation un peu initiale au mépris social, à la condescendance et aux a priori, vont avoir des conséquences directes et violentes sur sa vie.
Si vous me permettez, finalement... Bon, je traduis ça à ma façon. Il s'agit d'un vécu, un récit, c'est un vécu à partir duquel elle trace un portrait de la bonne société, entre guillemets, et la condition des concierges, non ?
Oui, en effet, oui, c'est ça. Elle parle donc spécifiquement d'une famille de concierges. Donc ça va parler à beaucoup de familles. C'est un sujet qu'on évoque finalement, en tout cas en littérature, il est peu évoqué. Mais on pense aussi que c'est le quotidien. Voilà, c'est un sujet qui est peu évoqué, mais c'est le quotidien pour de nombreuses personnes. Et c'est un livre qui parlera aussi à des personnes qui sont tout simplement en prise en général avec le mépris social, le racisme peut-être, et donc ça parlera aux concierges, mais aussi peut-être à des femmes de ménage ou les personnes dites invisibilisées dans la société. Donc c'est le ton intimiste, il y a une grande pudeur, il y a aussi beaucoup d'humour dans le texte, mais il y a une espèce de force extrêmement puissante de démonstration dans la dénonciation qu'elle fait des conditions de vie de ces familles.
Les chambres de bonne, entre guillemets, moi je les ai connues quand je suis arrivé à Paris. Et effectivement, il fallait grimper les escaliers. Attention, on ne va pas prendre l'ascenseur, de toute façon l'ascenseur il ne va pas jusqu'au 7e, d'une part. Et d'autre part, c'est-à-dire tapis rouge pour les propriétaires ou locataires. Et nous, bon, on a les gens d'escalier en climaçon en plus. Mais Milène Contival, on pourrait rajouter que finalement ce livre, c'est une facette de la vie de la communauté portugaise, surtout des femmes portugaises en France, ai-je raison ?
Oui et non, parce que dans le livre, en effet, d'abord, il y a le personnage de la maman qui est très important, et c'est elle qui accède à cet emploi, donc qui accède à la loge. Pour elle, c'est vraiment un grand pas parce que c'est son premier travail en France. Donc c'est une émancipation, c'est un lieu pour vivre, c'est un foyer, une maison. et c'est un salaire. Mais malheureusement, la maman décède très jeune dans la vie de la grande petite, et c'est le père qui va récupérer la loge. Il y a la question de repartir au Portugal ou pas. Il reste finalement avec ses deux filles. Et donc c'est le père qui reprend la loge. Et donc là, on est vraiment, c'est une histoire de famille. Et c'est ce que montre aussi la grande petite dans le récit, c'est que c'est la loge, c'est le logement, donc c'est familial. Et c'est aussi pour ça que c'est aussi difficile à un moment donné de quitter le métier. C'est aussi pour ça peut-être qu'il y a des choses qui sont acceptées qui ne seraient pas acceptées dans d'autres conditions. Parce qu'en fait, quand on quitte le métier ou quand on va critiquer certaines conditions, bah, en fait, on quitte sa maison, on critique sa maison, et donc on abandonne d'une certaine manière une partie de sa vie. Donc c'est toute cette imbrication en fait du travail intime qui est montré, et la perversité aussi de certains rapports.
Non, mais plus encore, mesdames Contival, c'est que finalement il y a dans l'immeuble donc ce rapport de domination de la part du propriétaire, ouais, au locataire. Mais on dirait que cette question-là, cette problématique-là, s'élargit à l'école, à l'église, oui, ou même dans des sphères les plus privées. Donc, on est dans quel monde, Mylène Contival?
Ben, on est dans un monde, en fait, qui est pas du tout... Il y a une espèce de cohabitation, en guillemets, c'est-à-dire que la grande petite, elle a cette loge dans un monde qui n'est pas du tout le sien. Et le monde des autres peut pénétrer le sien, donc entrer dans la loge sans aucun souci. Or, elle n'appartiendra jamais à l'autre monde, parce que l'autre monde, donc qui est le monde huppé, bourgeois, voire aristocratique du 6e arrondissement, ne veut pas de la grande petite et de sa famille intégrée. Elle est toujours regardée, notamment à l'école. À l'école, elle est obligée, pour être un peu tranquille, pour arrêter d'être scrutée. En fait, la grande petite, tout au long du récit, ce qu'on comprend, c'est qu'elle veut de la tranquillité. Elle veut qu'on arrête de l'observer, qu'on lui lâche la grappe, et elle veut vivre tranquillement. Donc, elle se réfugie dans les mots, dans la langue française, dans le dictionnaire, mais c'est pas pour montrer qu'elle peut le faire, c'est simplement qu'elle l'aime. Et elle est néanmoins montrée comme un espèce de petit singe savant, parce que une petite fille issue de l'immigration ne peut pas être... c'est exceptionnel qu'elle soit une bonne élève. Donc il y a la question du mérite aussi, qui est extrêmement critiquée dans le récit de Mariana, qui est très intéressant. Et voilà, et après, elle montre aussi comment elle va mettre en place des espèces de stratégies pour se fondre dans la masse, acheter des vêtements de marque en seconde main, ne jamais inviter ses potentiels amis dans sa loge, parce qu'elle ne veut pas montrer son logement, parce que son logement est complètement... il fait 25 mètres carrés, alors que ses copines peuvent habiter dans des appartements de 100 mètres carrés. Voilà, c'est tout ça qui est raconté... dans ce livre.
Avant de passer à la présentation, parce qu'elle aura lieu le jeudi 12 février à 19h30, justement à la librairie Le Merle Moqueur, oui, Paris via 20e, je vais lire une phrase que se trouve dans la quatrième couve du livre. La classe, oui, et la fonction rétablit les faits et esquissent les premiers pas vers une chambre à soi, délivrée des fantômes du souvenir. Bon, voilà, je pense que c'est le message de ce livre. Alors, la présentation, comme j'ai dit, bon, jeudi 12 à 19h30, les librairies Le Merle Moqueur, 51 rue des Bagnolets à Paris, 20e, où le métro c'est Alexandre Dumas, c'est tout près de la place de la Nation. Alors, quelque chose de très intéressant, c'est que les deux premiers auteurs qui ont été publiés par la collection Bruit de Frontières vont être présents. Et d'ailleurs, je les ai reçus ici dans le studio Radio Alpha. Je vais parler de José Vieira et de Jorge Valadas. Ils seront présents avec vous, également avec Anna Mediator et avec Anne Lim.
José Vieira et Jorge Valadas sont les deux premiers auteurs qu'on a publiés dans la collection. On est vraiment très heureux, très honorés avec Anna et Anne de que ce soit les premiers livres publiés dans cette collection, parce que ce sont deux personnes qui ont énormément travaillé par plein de biais différents sur l'histoire de l'immigration, que ce soit par leur travail de documentariste ou de militant, et ils ont apporté de nombreux éléments à la réflexion autour de l'immigration portugaise en France, et que ce soit Souvenir d'un futur radieux de José Vieira ou Itinéraire du refus de Jorge Valadas, le ton le regard qu'il propose, qui est ouvert et qui est très affûté, très très critique, très il pointe beaucoup de choses qui permettent de réfléchir et de taper peut-être parfois là où ça fait mal. C'est des regards qui mettent un grand coup de pied aux a priori, qui apportent de la nuance sur cette histoire, nous c'est le ton. C'est quand on a pensé cette collection, c'était vraiment pour ça, c'était apporter donc des textes qui donneraient de la nuance à une histoire qui pour l'instant sur le support littérature n'est pas forcément connue, et nous on est convaincus avec Anna que le biais de la littérature permet beaucoup de nuances et permet d'atteindre aussi un public plus large. Voilà. Et avec le livre de Mariana Alves, La classe et la fonction, on est très contente parce que là on est sur une jeune femme qui a une trentaine d'années. Donc on est sur une autre génération, on est sur un autre regard, on est sur une autre histoire. Et du coup notre idée aussi dans la collection, c'est de créer une constellation de textes qui viendraient se compléter les uns les autres. Et je pense que là, avec les beaux textes de José et de Georges et celui de Marianne qui arrive maintenant, on propose une très belle constellation et qu'on vous propose aussi de venir fêter. Donc ce sera les 3 ans le 12 février prochain. Voilà.
Donc, tout est dit, le 51 rue de Bagnolet, Paris 20e, à 19h30. Métro, le plus proche, c'est Alexandre Dumas, mais un partant. La nation peut aller à pied. Mylène Contival, merci.
Merci beaucoup.
Et falamos de cinéma, falamos de littérature. Et maintenant, chers amis, on va parler de musique, ni plus, ni moins. Edouf, ça vous dit quelque chose à tout le monde? Eh bien, avant, je connaissais les Edoufredes de Montreuil. Et désormais, il y a les Edoufredes de la Flisuit. Céline Costa, bonjour.
Bonjour.
Merci. Je vois bien que j'actualise mon cerveau quand même. Alors, oui, effectivement, donc, 2 stages. Oh, stage chant et percussion du Portugal, Wadouf. Justement, donc, 2 stages de prévu, le 15 février 2026 et 7 juin de cette année également. Librairie La Flibuste à Fontenay-sous-Bois. On donnera l'adresse à nos éditeurs. Alors, il y a déjà eu un changement, et c'est très important parce que une librairie, là où on est au milieu de la culture, hein, c'est complètement différent, oui. Là, le lieu.
Tout à fait, mais en fait, c'est vraiment un choix un peu du cœur, cette librairie La Flibuste, parce que c'est le premier endroit où on a fait une rencontre autour de notre recueil « Voici mon cœur, brise-le avec un marteau » sorti aux éditions du Commun en 2024.
Qu'on a eu l'occasion d'en parler, de faire une interview avec Mika Kouraï, entre autres.
Super, oui, tout à fait. Et en fait, on a eu l'occasion, la grande surprise de découvrir donc Juliane, qui est libraire à la Flibuste, et sa maman Claudine, qui nous ont fait une lecture mère-fille de ces chants donc, que je transmets lors de mes stages, qui sont des chants de tradition orale, féminine, donc transmis de génération en génération, de mère en fille. Donc ça avait énormément de sens, et on avait été très très émus de les écouter. Claudine, qui est donc... enfant de portugais comme moi, et Juliane, petite fille de portugais, je trouvais que ça avait beaucoup de sens, on avait été très émus, et aujourd'hui c'est avec grand plaisir en fait de retourner dans cet endroit qui était important pour nous, parce que c'est la première fois qu'on présentait le recueil.
En plus, oui. Alors Céline, une question. Quand vous faites les stages, et d'ailleurs, on va peut-être commencer par le début, concrètement, stage de chant et de percussion, donc Edouf, concrètement, qu'est-ce qui se passe pendant ce stage? Parce que, même si je n'ai jamais fait de Edouf, mais je peux y aller quand même.
Alors, pour le coup, ce stage-là, il est non mixte, c'est-à-dire que...
Mais je dis de façon générale, bien entendu, je sais que...
Ah, c'est... de manière générale. Et
voilà.
Ok. En fait, non, c'est très accessible. La culture, on va dire, tout le répertoire de chants qui est lié à cette percussion, la douf, on est vraiment sur une culture populaire et rurale qui est à la base... pratiqué par des personnes qui sont non musiciennes, qui ne sont pas allées au conservatoire. C'est des chants qui sont très très anciens, donc largement avant toute même écriture de la musique, parce que les premières représentations de la douf remontent à l'Égypte ancienne. Donc on a quand même quelque chose qui est très très ancré dans l'oralité et dans le, comment je pourrais dire, une expression très brute de la musique, une expression très ancrée. Et on se retrouve avec finalement une expression et une pratique très accessible des personnes qui n'ont jamais fait de musique et qui n'ont jamais chanté. Moi, j'accepte tout le monde.
Voilà, oui.
Donc en fait, c'est quelque chose de très, répétitif aussi. À la douce, c'est une transe qui s'installe. Donc c'est quelque chose qui a travaillé au départ. Mais quand je disais, c'est accessible. Et une fois que cette transe, elle se met en place, comme je dis souvent, c'est aussi accessible que de faire la vaisselle et de chanter en même temps, ou de faire du vélo, vous voyez, que de chanter en même temps. On a quelque chose d'un peu inconscient qui se met en place.
Alors, le stage, c'est entre 13h30 et 16h30. J'ai mis raison. Alors, mais c'est ça la question tout à l'heure que je voulais poser. Adouf, comment vous fournissez l'instrument musical? Comment ça se passe? Est-ce que finalement chacun peut venir? Bon, s'il en a un, bon, tant mieux.
Non, alors en fait, au départ, j'amenais des percussions. Mmh. Il s'avère que cet atelier, donc, il existait l'année dernière à la Maison Verte de Montreuil.
Oui.
Et du coup, il y a des participantes qui se sont procurées des adoufs, des enfants de portugais comme moi qui sont allés à Navaira Baix, ont découvert les lieux, voilà, qui sont tombées amoureuses de cette culture et qui ont acheté des adoufs. Et du coup, maintenant, j'ai plus beaucoup besoin d'en emmener parce que on divise le groupe en deux et les percussions, elles circulent de main en main. Donc en fait, les personnes peuvent venir sans percussion. Complètement, les mains vides en fait, comme elles viennent comme ça, un dimanche. Non,
je pense qu'il n'y a aucun portugais ni portugaise qui ne connaît pas la douce, mais pour ceux bon, qui sont un petit peu dans les vapes, un petit peu dans la lune, je ne sais pas où, expliquer qu'est-ce que c'est, parce que c'est un instrument musical, il est tellement simple, mais en même temps compliqué, parce que bon, expliquez-nous comment on fabrique, bon, en résumé, hein, Adouf.
Alors déjà, c'est pas du tout une mauvaise chose que de ne pas connaître, parce que c'est quelque chose qui est très peu connu, hein, c'est vraiment très localisé, Navaira Baix. Mm-hmm. Et voilà, peu de gens qui connaissent, en tout cas en dehors du Portugal. Et un Adouf, en fait, donc c'est une percussion qui est carrée, bimembranophone, ce qu'on appelle un tambour sur cadre, c'est les tambours qu'on peut prendre avec les mains, en fait, qu'on joue, qu'on porte. Et c'est fait donc avec quatre planches de bois qui sont clouées. On est vraiment sur une percussion très ancienne, archaïque, et avec deux peaux de chèvre tendues et cousues à la main.
Mmh.
Voilà.
Ah ouais, non, mais ça, bon, il y a encore des artisans au Portugal qui ont gardé les méthodes de fabrication traditionnelles.
Oui, oui, il y en a plusieurs. Notamment, moi, j'ai beaucoup de percussions de José Raúl, qui est Naïdanianov, et qui, lui, fait ça de génération en génération aussi. Son père, son grand-père, tout le monde construisait des adoufs. Naïdan, il y a aussi le centre d'artisanat, où il y a des femmes qui construisent des adoufs aussi là-bas. De manière plus moderne, je vais aussi mentionner Ruissierva, mais qui, lui, nous assoche. Qui construit des adoufs qui sont, eux, plus modernes, avec un système d'affinação, un système de tension de la peau, pour pouvoir, quand on n'est pas à Beira Baix et qu'il fait plus humide, notamment en Bretagne, pouvoir tendre la peau, parce que l'adouf, voilà, il est tributaire du climat, en fait. Et sinon, il faut le mettre dans l'oreille, au coin du feu, ou alors au soleil pour que la peau se tende. Et lui, voilà, il a créé ce système. Avec une clé où on peut tendre la peau, si on n'est pas dans les bonnes conditions, notamment pour les professionnels. Parce que des fois, on peut jouer dans des endroits où, voilà, on peut pas forcément le mettre au coin du feu ou au soleil ou au chauffage. Et voilà, ça permet quand même d'éviter des déconvenues.
On avance, hein. C'est-à-dire les nouvelles technologies, ça sert même par rapport aux instruments aussi simples, mais aussi je dis pas compliqué, mais enfin, parce qu'il y a le rythme. Effectivement, on tient le douf d'une main, on tape avec l'autre, mais il y a une coordination de mouvements malgré tout.
Et oui. Comme toutes les percussions, hein. Bien sûr. Après, c'est de la pratique, hein. Ce que je dis, c'est pas magique. Il faut s'entraîner, mais j'ai vraiment vu beaucoup de personnes qui n'avaient jamais touché une percussion, ça fait quand même un certain temps que je fais ça maintenant, que je transmets cette tradition, et qui n'avaient jamais touché une percussion et qui ont réussi. c'est vraiment une question de modeler le cerveau, en fait, de l'entraîner. Et après, derrière, on se sent très puissant d'avoir réussi à faire ça.
Oui, de cerveau. Oui. Il y a des gens qui achetaient des tons de cerveau pour vendre une boisson gazeuse. Bon, c'est une autre affaire, ça. Céline Coche, donc déjà, pour s'inscrire, ça passe par mail, c'est ça?
Oui, c'est bien de me contacter, moi, comme ça je peux envoyer les infos. On peut aussi échanger s'il y a des peurs. Parce que des fois, voilà, les gens ont l'impression que qu'ils ne vont pas y arriver parce qu'ils ne parlent pas portugais ou qu'ils ne font pas de musique. Mais j'insiste là-dessus, si vous ne parlez pas du tout portugais, c'est pareil, ce n'est pas du tout un problème. Mais bon, c'est bien d'échanger. Et donc, par mail, c'est pas mal. Oui, je vais vous donner mon adresse mail.
Ah bah, c'est ça que je vais faire. Céline Costa, @gmail.com.
Oui. Voilà, comme ça, on peut échanger. Moi, j'envoie les infos et le lien d'inscription. Donc, c'est le 15 février.
Donc, le 15 février, de 13h à 16h30. Alors, organiser ce stage de chant et percussion, de douf, ça suppose aussi, bon, du travail. Il faut payer pour participer à ce stage ou pas?
Oui, tout à fait. C'est un stage qui coûte 30 euros pour les 3 heures de stage. Voilà.
Voilà, donc bon, tout est dit.
Effectivement, oui, vu que c'est ma profession.
C'est profession. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez parlé de la Bretagne, parce que vous faites partie d'un groupe, hein, j'aimerais bien, il faut le citer, hein, là, où vous jouez.
Tout à fait, alors en fait, je me suis spécialisée en musique du Portugal et du Brésil, donc oui, je suis chanteuse professionnelle. J'ai deux groupes, un de musique portugaise, où on voyage au Portugal, en fait, on part du Fado, et après, on va dans différentes régions. Donc, Alentejo, du côté de chez ma mère, on va dans la Beira Baixa, no Norte. Et voilà, comme ça, les gens peuvent aussi découvrir d'autres choses qu'au Fado, qui est souvent la musique la plus connue, et voir toute la diversité, la richesse aussi de la culture musicale portugaise, qui est vraiment très, très riche. On a des choses comme les chants des femmes à la Beira Baixa, qui est à l'unisson avec la percussion, et on a l'inverse complet, no Alentejo, com canta Alentejano, où c'est de la polyphonie d'hommes. Donc vraiment, il y a énormément de choses à découvrir. Donc avec ce trio qui s'appelle Msejane, c'est le nom du village de Baixa Alentejo où ma maman est née. Donc avec ce trio, on emmène les gens à la découverte du Portugal. Donc j'ai ce groupe-là, et aussi je chante du forró, donc la musique brésilienne de bal, faire danser les gens complètement à l'opposé, et dans un groupe qui s'appelle The Foroscopics, en Bretagne.
Voilà. Alors, et au Portugal, j'aimerais bien voir leur tête. Finalement, c'est une louse descendante. Et une jeune fille de France qui va, je dis pas apprendre, mais enfin faire connaître quelque chose qui est bien ancré, ou qui était bien ancré dans une région du Portugal. L'ironie de l'histoire, j'adore ça. Puis ça va, moi ça va. Avec vous, ça va dans le bon sens. Enfin,
oui, c'est Céline Coste.
Je vous remercie. Donc, le prochain stage de chant et également percussion, ce sera le dimanche 15 février, dimanche prochain d'ailleurs, entre 13h30 et 16h30. Pour s'inscrire, pour avoir des infos, Céline Coste 22 @gmail.com. Merci Céline. Muito obrigado. Bon, et de toute façon, le 7 juin, il va y avoir un autre stage. Je n'ai pas oublié.
Tout à fait. Merci beaucoup.
Merci Céline. Muito obrigado. E nós estamos a terminar este Passagem a Nível do domingo, dia 8 de fevereiro, emissão Lembro, com redifusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Obrigado ao Manuel Alexandre e, como diz o outro, eu vou-me embora.
E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem.
mensagem de nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.